Alors, cette semaine, je me suis posé une question parce que, à titre très personnel, je me suis rendu compte que finalement, je me suis enfermé. Alors, professionnellement, j'en reviens souvent à ça, mais c'est souvent ce qui est question en ce moment parce que les soignants ont tendance, comme d'autres hein, aussi, on n'est pas pire que d'autres, mais on a tendance en ce moment à travailler beaucoup, et même quand on est à la maison, au repos, bah en fait, finalement, on travaille par rapport à cette crise sanitaire, et j'ai ressenti un véritable mal-être dans une dynamique un peu où j'étais un peu perdu. Puis je me suis rendu compte que, bah, en fait, finalement, je passais du temps sur le travail, pour aider les patients, mais aussi pour aider mon établissement à faire face à la crise. Et c'est un peu compliqué. Et puis, ben, finalement, j'ouvrais un petit peu moins ma Bible. Je priais, mais mes prières étaient limitées dans le temps. Et finalement, à travers cette épreuve, je me suis posé la question, est-ce que finalement, c'était une épreuve que j'étais en train de vivre ou une tentation qui était devant moi et à laquelle... Enfin, que j'avais pas reconnu, qui était un peu déguisé, maquillé. Et bon, finalement, effectivement, en reprenant sa Bible, on retrouve des paroles réconfortantes, on trouve même des choses qui nous permettent d'avancer à travers les épreuves, et on se sent beaucoup mieux intérieurement. Et donc la question était de l'épreuve, la tentation, l'épreuve, est-ce que ces deux choses totalement égal ou est-ce que c'est deux choses bien différentes? Alors la tentation, qu'est-ce que c'est? La tentation, elle se présente quand le croyant se retrouve dans une situation où il entend deux appels. L'un qui le pousse à transgresser la volonté de Dieu et l'autre qui le pousse à faire ce qu'il sait être la volonté de Dieu. C'est un peu le lot de la marche chrétienne. Et l'épreuve, c'est un test pour le croyant. La mise à l'épreuve, c'est aussi ce qui permet de nous fortifier. Alors, c'est pas étonnant de se rendre compte que dans les textes originaux, que ce soit en hébreu ou en grec, eh bien, c'est le même mot qui désigne à la fois l'épreuve et la tentation. Et c'est uniquement le contexte qui permet de faire la différence. Et pourtant, des fois, c'est bien difficile de se prononcer. Alors d'où vient la tentation dans la vie chrétienne, à votre avis? Eh bien, on peut se dire que la tentation, c'est le diable. D'ailleurs, Satan porte aussi le nom de tentateur dans la Bible. En 1 Thessaloniciens 3, verset 5, je l'ai envoyé pour m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous n'ayons travaillé pour rien. On a aussi en Matthieu 4, le tentateur s'approcha et lui dit à Jésus, c'est le nom de, effectivement, la tentation émane bien du diable. Et quel est son but? Bah, ce que l'on sait, c'est que le diable, il hait les chrétiens. Et son but, bah, c'est nous inviter à nous détourner de Dieu ou de la voie de l'obéissance. Dans Actes 5, les versets 3 et 4, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ? S'ensuit une série de questions. Comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Et à l'écoute de ces paroles, Ananias expira. Donc c'est extrêmement grave. Il a trahi Dieu, il a menti à Dieu. Il a payé le prix fort. Et pour réussir à détourner le croyant des projets et des volontés de Dieu, eh bien, le diable cherche constamment à insinuer le doute dans les croyants, ce qui entraînera leur rébellion. Il désire, le croyant, à douter que les voies de Dieu soient bonnes, justes et parfaites. Et on retrouve ça très vite dans les textes. En Genèse 3, les versets 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit? Dieu a-t-il vraiment dit? Il insinue le doute. Vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas. Un mensonge et qu'on a de la facilité à entendre. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Satan incite l'homme soit à faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu, soit à ne pas faire ce que Dieu lui demande. Mais il est rusé et perfide. Et parfois, il veut même nous inciter à faire ce que Dieu a dit, mais dans un moment qui n'est pas celui de Dieu. Prenons 1 Samuel, chapitre 13, et versets 8 à 14. Saül attendit 7 jours, conformément au délai fixé par Samuel. Mais celui-ci n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Saül dit alors, « Amenez-moi les victimes destinées à l'Holocauste et au sacrifice de communion. » Et il offrit l'Holocauste. Finalement, c'était ce qui était demandé, offrir l'Holocauste. Il finissait d'offrir l'Holocauste lorsque Samuel arriva. Saül sortit à sa rencontre pour le saluer. Samuel dit, « Qu'as-tu fait ?» Saül répondit, « Lorsque j'ai vu le peuple se disperser loin de moi, que tu n'arrivais pas dans le délai fixé et que les Philistins étaient rassemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre m'attaquer à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. » Samuel dit à Saül, « Tu t'es comporté de façon stupide. Tu n'as pas respecté le commandement l'Éternel que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi ton règne pour L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, mais maintenant, ton règne ne durera pas. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et il l'a destiné à être le chef de son peuple. Cela arrivera parce que tu n'as pas respecté ce que l'Éternel t'avait ordonné. » Alors, pour réussir, c'est son projet qui nous conduit inévitablement vers la défaite. Mais Satan peut même être amené à se déguiser. On voit en 2 Corinthiens 11, Satan lui-même se déguise en homme de lumière. Alors, soyons bien attentifs à toutes ces attaques. Parce qu'il est évident, on a mis la référence de 1 Pierre 5, le verset 8, mais votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Oui, il cherche toujours à nous pousser vers la défaite. Sauf que Satan n'est pas tout puissant. Il y a Dieu. Et on sait que Dieu nous aime. Alors, si le diable nous tente, c'est que Dieu permet la tentation. C'est ce qu'on peut vous lire dans le livre de Job, chapitre 1, verset 12. L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Ou au chapitre 2, verset 6, l'Éternel dit à Satan, « Le voici, je te le livre. Seulement, épargne sa vie. » J'ai d'autres passages, comme le premier verset du chapitre 4 de Matthieu. « Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » Ou encore Luc 22, verset 31, « Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. » Alors Dieu permet la tentation, oui, car elle constitue une épreuve de la foi destinée à fortifier le croyant. Prenons Jacques 1, le verset 12. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Mais en même temps, Dieu nous permet d'être éprouvés dans notre foi, mais il contrôle la tentation. Il en mesure toujours l'intensité et il nous donne la possibilité d'en triompher. 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. 2 Thessaloniciens 3, verset 3. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous protégera du mal. Ou encore 2 Pierre 2, le verset 9. Ainsi donc, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et garder les injustes pour le jour du jugement où ils seront punis. Dieu n'enlève pas la tentation, mais il aide à ne pas faillir. Et alors attention, ce schéma, j'aimais bien ce schéma, parce que ça montre bien une chose, c'est que c'est pas Dieu qui nous tente. C'est pas lui qui incite à nous faire commettre le mal. Il ne tend pas un piège pour que le croyant soit pris. Si on poursuit dans la lecture du premier chapitre de Jacques, le verset 13, « Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne. Non, Dieu, ce qu'il fait, c'est qu'il met à l'épreuve. Et je vous ai dit dans le texte original, c'est le même mot en hébreu ou en grec qui signifie « éprouver et tenter ». Exode 16, le verset 4. « Ainsi, je le mettrai à l'épreuve et je verrai s'il suivra ou non ma loi. » En Deutéronome 8, verset 2. « Il voulait t'humilier et te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur et savoir si tu respecterais ou non ses commandements. » Ou encore Genèse 22, Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Être éprouvé, c'est un acte par Dieu, c'est un acte positif. Ça conduit à la purification et à la sanctification. Voilà. Dieu veut fortifier la foi, il veut récompenser, il veut sanctifier pour nous mener, lui, à la victoire. Et puis... J'ai une discussion là, quand j'étais en train de réfléchir là-dessus avec des amis sur justement la situation sanitaire du moment. Et il y avait un débat houleux sur le positionnement de l'État face à cette crise. Et ce sont les mêmes qui, il y a quelques semaines, disaient que le port du masque. Éviter les rassemblements, tout ça, c'est une privation de liberté, mais. L'État, c'est bon, c'est à nous de gérer tout ça. Et puis, la situation dégénère. Et c'est les mêmes qui, maintenant, disent « Ah ouais, mais alors ça, c'est de la faute de l'État. Si le virus circule encore, c'est parce que l'État n'a pas été assez loin dans ses mesures. » Alors, loin de moi l'envie de refaire le débat, parce que j'ai un avis très, très tranché sur la question, et je pense que d'autres auraient des avis un petit peu divergents, en tout cas. Mais... Là, ce que j'expliquais à mon ami, c'est que c'est pas l'État qui transmet le virus, qui... voilà, c'est bien. Il y a aussi la part de responsabilité de chacun. Alors, voilà, ça, c'est une question... c'est une question voilà, de société, mais en tout cas, en ce qui concerne l'épreuve, la tentation... Mais toute tentation ne vient pas directement de Satan. Et on ne peut pas lui attribuer de manière systématique et automatique dès que ça ne va pas. Dès qu'on est tenté, c'est « Ah, si on faillit et si on faiblit face aux épreuves, c'est de la faute de Satan. » Parce que Satan, il a beau être habile, il trouve dans les hommes de bons complices. Car l'attrait du fruit défendu, ça répond intérieurement à l'inclinaison au mal. Marc 4, versets 21 à 23. En effet, C'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Eh bien, à cause de sa nature pécheresse, il existe bien dans l'homme lui-même une amorsomale, sa convoitise, ce que Kuhn qualifie de mauvais désir qu'il porte en lui, qui l'appâte, le séduise et l'entraîne. Et d'ailleurs, en Jacques 1, verset 14, « Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. » Prenons maintenant le 1 Jean, chapitre 2, les versets 15 et 16. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux, et l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père, mais du monde. Ce passage, je voulais le partager avec vous parce qu'il met en évidence trois types de convoitise. La convoitise de la chair, ou les désirs mauvais qui sont de notre propre nature. La convoitise des yeux, c'est-à-dire le désir avide de voir ou de posséder ce que l'on voit. Et enfin, l'orgueil de la vie, c'est-à-dire la poursuite et l'exaltation de la puissance et de la gloire, l'assurance dans ses propres ressources, la sécurité basée sur les choses terrestres. Tout à l'heure, j'ai insisté dans le passage de la Genèse sur trois expressions au moment de la tentation, parce que Adam et Ève se sont retrouvés dans une situation bien particulière. Ils n'avaient pas de nature pécheresse à la base. Pourtant, quand on voit le processus de leur tentation, il y a déjà les expressions qui reprennent ces trois types de convoitises. Bon à manger, agréable à la vue, et précieux pour ouvrir l'intelligence. Et face à ça, l'homme est faible. Et ces tentations-là, ces convoitises-là qui sont attachées à notre nature, ben, ça appelle l'homme aussi à prendre des décisions et à faire des choix. La tentation en elle-même, c'est pas le péché. Ce sont bien les décisions et les choix que nous allons faire qui peuvent nous conduire au péché. Jacques 1, les versets 14 et 15. « Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché. Et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. » Heureusement, si le croyant a péché, Dieu lui donne la possibilité d'un nouveau départ. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. C'est 1 Jean, le chapitre 1, verset 9. Et encore dans 1 Jean, chapitre 2. Si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Car Christ comprend nos faiblesses. Jésus est entré complètement dans la condition humaine et a dû passer par l'épreuve de la liberté. Il a lui-même subi la tentation, mais en lui, la tentation n'a trouvé aucune complicité et il est resté sans péché, comme dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 15. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Et Jésus ne fait pas que compatir, il peut secourir ceux qui sont tentés. Dans Hébreux 2, verset 18, « En effet, comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Et il fait remporter la victoire à ceux qui sont en communion avec lui. » 2 Corinthiens 2, 14, « Que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ et qui propage partout, à travers nous, le parfum de sa connaissance. Oui, il nous fait remporter les victoires comme lui a triomphé de Satan. Alors pour vaincre, le croyant doit résister au diable en ayant une foi ferme et en se soumettant à Dieu. C'est ce que nous pouvons lire dans 1 Pierre 5, les versets 8 et 9. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Ou encore Jacques 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. » Dieu a créé l'homme libre et doué de volonté. La tentation offre donc l'occasion à l'homme d'exprimer un choix dont il est pleinement responsable. Mais il leur a laissé une arme pour se défendre et faire le choix qui est juste. Il leur a laissé sa parole. Et d'ailleurs, prenons le chapitre 4 de Matthieu, les trois premiers versets. Parce que Jésus nous montre l'exemple et nous montre que c'est important de s'appuyer sur la parole. Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaçant au sommet du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. » En effet, il est écrit, alors là c'est le diable qui cite, et on voit des fois des gens taper à notre porte et extraire des versets pour corroborer certaines pensées qui peuvent nous détourner de la Bible. Donc, en effet, il est écrit « Il donnera des ordres aux anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui dit « Il est aussi écrit « Tu ne provoqueras pas le Seigneur, ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. » Jésus lui dit alors « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit « C'est le Seigneur, ton Dieu, que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. » Alors le diable le laissa, et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Oui, la parole de Dieu est puissante, et la connaître, l'étudier et l'intégrer pour pouvoir répondre aux tentations, c'est vraiment l'arme la plus puissante que l'on ait pour faire fuir le diable. La prière et la vigilance sont encore deux moyens que le Seigneur donne aux croyants pour lui éviter de tomber dans la tentation. Matthieu 26, verset 41. Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. Et comme l'homme est faible par nature, lorsque c'est possible, le croyant doit prendre la décision de s'éloigner, voire de fuir loin de la source de la tentation. 1 Timothée, chapitre 6, verset 11. Quant à toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Et ce n'est pas une faiblesse que de savoir fuir. Alors voilà, ce petit schéma qui reprend un petit peu l'homme et le croyant dans sa marche chrétienne face aux épreuves et à la tentation que je voulais partager avec vous ce dimanche. Prions. Oui, Seigneur, merci parce que Seigneur, tu nous éprouves, tu éprouves notre foi, Seigneur, mais pour nous montrer à quel point tu nous aimes et à quel point tu veux nous fortifier, nous sanctifier, nous élever, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que Tu ne nous livres pas au mal sans armes. Tu nous protèges et tu nous as enseigné tout ce dont nous avons besoin, Seigneur, pour lutter efficacement, Seigneur. Et ainsi rejoindre tes voies, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu nous pardonnes quand nous sommes faibles et quand nous chutons, Seigneur. Seigneur, tu es un Dieu bon, miséricordieux et vraiment. Je te remercie pour toute ton œuvre dans la vie de chacun de mes frères et sœurs. Parce que tu as un projet pour nous tous, mais individuellement dans nos vies, et c'est toi qui nous donnes la paix. C'est toi qui nous fais comprendre les choses et c'est toi qui nous permet d'avoir une pleine assurance en ton œuvre, Seigneur. Alors loué soit ton saint nom, Seigneur. Amen.